Bonjour à vous et bienvenue sur BAC FM 106.1. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Guillaume Pageot, journaliste indépendant qui a notamment travaillé pour Mediapart. Alors, vous êtes réputé pour être un journaliste spécialiste de la Birmanie et c'est pour cela que nous vous avons convié à cette émission. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer précisément ce qui s'est passé le week-end dernier en Birmanie ?
Bonjour. Effectivement, dans la nuit de dimanche à lundi, un coup d'État a eu lieu en Birmanie. Il faut savoir que la Birmanie est un pays qui, depuis 2011, est dirigé par un gouvernement semi-civil, c'est-à-dire que les militaires qui menaient une junte militaire depuis 1962 ont accepté de partager le pouvoir avec un gouvernement élu. Et les militaires ont mis fin à tout ça, en fait, dans la nuit de dimanche à lundi, en prenant le pouvoir par la force, en déployant des chars dans les rues et en arrêtant des dizaines de personnes.
Pensez-vous que ce gouvernement militaire donc peut s'imposer dans le temps ?
Alors, il était déjà là depuis longtemps, très installé. C'est un peu un retour en arrière, en fait, qu'on observe maintenant. Donc, les militaires ont toute la capacité et les moyens de durer. C'est clair que ils ont été au pouvoir de 1962 à 2011. Ils étaient encore partiellement au pouvoir de 2011 à 2021. Et là, en 2021, ils ont toute l'occasion de prolonger et de reconstituer une junte militaire. Leur motivation reste encore très très floue. Ce qu'ils ont annoncé, c'est un an d'état d'urgence avant d'organiser de nouvelles élections. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On ne sait pas vraiment ce qu'ils ont en tête au-delà de ça. Donc effectivement, s'ils ont envie de garder le pouvoir après cette période d'état d'urgence, ils pourront tout à fait le faire. En tout cas, ils en ont les moyens politiques, matériels et humains.
Qu'en est-il de la situation des parlementaires qui sont, eux, démocratiquement élus ? Sont-ils toujours en poste ou bien ont-ils été arrêtés eux aussi ?
Les parlementaires ont été arrêtés. En fait, lundi matin, le nouveau parlement issu des élections de novembre 2020 devait siéger pour la première fois. Donc les gens étaient arrivés à Naypyidaw les jours précédents, Naypyidaw, la capitale birmane. Et en fait, avant même que la séance commence, puisque le coup d'État s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi, les parlementaires ont été arrêtés, d'abord détenus là où ils vivent dans une sorte de village avec des petites maisons pas très très loin du Parlement où ils se rendent en bus. Donc ils ont d'abord été détenus dans ce village avant que l'armée n'accepte hier ou avant-hier de les laisser partir et rentrer chez eux.
Quel a été en fait le déclencheur de ce coup d'État en Birmanie ?
Pour l'instant, c'est très difficile à dire. Il y a seulement des hypothèses. L'armée n'a pas spécialement communiqué sur ce coup d'État. Le général en chef, donc qui a dirigé le coup d'État, a seulement dit que c'était inévitable, sans vraiment en préciser les raisons. Ce qui est certain, c'est que depuis l'élection de novembre, les militaires ont montré de l'insatisfaction. Le parti pro-militaire a fait un résultat catastrophique, donc ce qui signifie qu'au Parlement, la représentation des militaires aurait été limitée, et leur pouvoir potentiellement aussi. Il est vrai aussi que ce gouvernement, à la fois civil et militaire, qui existait en Birmanie, semblait satisfaire les militaires au départ, et de plus en plus, la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, cherchait à trouver des failles dans ce système, en proposant des modifications de la Constitution, en inventant le poste de conseillère d'État qui n'existait pas, mais que Aung San Suu Kyi a réussi un petit peu à inventer pour pouvoir diriger le gouvernement. Et toutes ces manœuvres, auxquelles se rajoute le succès électoral d'Aung San Suu Kyi en novembre, ont pu entraîner pour les militaires un moment de réflexion, voire de panique, en se disant notre pouvoir finalement va être réduit à néant et dans les 5 prochaines années qui arrivent, on va vraiment devoir lutter. C'est peut-être aussi une question de pouvoir personnel. Le général Min Aung Hlaing, qui dirige l'armée birmane, devait partir à la retraite cette année. Il n'avait pas de plan précis après ça. Il est assez jeune pour un général birman. Il a 64 ans. Donc c'est peut-être une façon aussi de s'accrocher au pouvoir et de prolonger dans le temps une position privilégiée.
Alors j'imagine que vous êtes en contact avec certains habitants. Comment s'organisent-ils face à ce coup d'État ?
Les habitants ont d'abord été un peu sous le choc. puis en Birmanie, il faut savoir qu'il y a une histoire, une longue histoire de coups, de répression, et où la population, quand elle descend dans la rue, souffre souvent d'une répression militaire violente. Donc pour l'instant, les habitants organisent plutôt une campagne de désobéissance civile, c'est-à-dire qu'ils refusent d'aller travailler, ils partagent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont repris le salut à trois doigts de Hunger Games qu'on voyait déjà dans les manifestations en Thaïlande, et ils boycottent les produits liés potentiellement à des entreprises qui travailleraient pour le compte des militaires. Donc ça peut aller de la bière à aux bijoux, aux prestations touristiques. Voilà. Donc c'est pour l'instant, c'est vraiment une campagne de désobéissance civile qui s'organise, et depuis hier, de plus en plus des manifestations tout de même. Voilà. Donc on peut penser que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il peut y avoir de plus en plus de manifestations dehors.
Vous pensez qu'une rébellion de la part des Birmans est envisageable ?
Tout est possible. Ils sont déjà en rébellion. C'est juste que ça prend une forme différente. Voilà. Je pense que les mouvements pacifiques, citoyens, de désobéissance sont déjà une forme de rébellion qui peut être assez puissante. On a des échos de personnes qui auraient été arrêtées juste parce qu'ils faisaient du bruit pour signifier leur opposition. Donc si ça s'installe, c'est aussi quelque chose qui peut être sur le long terme assez redoutable pour les militaires. En tout cas, ça montre que la population est mobilisée et qu'elle n'accepte pas le coup d'État.
Nous allons tout de suite marquer une courte pause musicale. Nous nous retrouvons donc tout de suite sur BAC FM 106.1 après Come Together des Beatles, toujours avec Guillaume Pajot, journaliste indépendant spécialiste de la question birmane.
Got to be a Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1. Si vous nous rejoignez, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Guillaume Pajot, journaliste indépendant et spécialiste de la Birmanie dans le cadre d'une émission consacrée à la situation politique en Birmanie. Guillaume Pajot, nous évoquions avant la pause la situation des locaux. Est-ce qu'une partie de la population soutient l'armée birmane ?
L'armée birmane est aussi très appréciée par une partie de la population, déjà parce qu'elle... Elle incarne, en tout cas elle s'est donnée pour mission de défendre la nation, c'est ce qu'elle répète dans tous ses communiqués. En pratique, on voit bien que c'est pas vraiment le cas. Donc tous les nationalistes, les patriotes birmans ont un faible pour l'armée birmane, qui a participé à l'indépendance du pays en 1948. Voilà, le fondateur de la nation birmane, c'est Aung San, qui est lui-même un général. Donc la crédibilité, on va dire l'aura de l'armée birmane est réelle en Birmanie. Après, c'est très difficile d'estimer quelle est la part de population qui soutient l'armée birmane réellement. C'est des gens qui sont souvent très visibles, parce qu'ils sont moins embêtés par les forces de police, etc. Mais on l'a vu pendant le scrutin en novembre 2020, la LND a raflé près de 80% environ des suffrages. Le parti pro-militaire n'a presque rien eu. C'est dire la faible reconnaissance de l'armée, en tout cas en tant qu'interlocuteur politique pour les Birmans.
L'armée birmane semblait assez préoccupée par l'utilisation des réseaux sociaux ces derniers jours. Est-ce qu'une suppression d'Internet est à l'étude actuellement ?
Il y a des rumeurs comme quoi, effectivement, ils réfléchissent à ça. Pendant longtemps, l'Internet n'a pas été libre en Birmanie et c'est seulement avec l'ouverture du pays en 2011 qu'on a commencé à pouvoir surfer sur les sites qu'on voulait avec moins de censure, voire quasiment pas de censure. Là, effectivement, l'accès à Facebook a été supprimé, l'accès à d'autres messageries a été supprimé. Donc, il faut passer par des VPN ou par d'autres applications pour pouvoir communiquer. Effectivement, je pense que les militaires savent très bien que cette campagne de désobéissance civile dont on parlait plus tôt, elle s'organise aussi largement via les réseaux sociaux, via Internet. Donc, en coupant Internet, ce qu'ils espèrent, c'est couper la mobilisation, couper le mouvement de désobéissance civile.
La minorité musulmane Rohingya est fortement réprimée, notamment de la part de l'armée birmane. Est-ce que cette communauté doit craindre ce qu'il se passe actuellement en Birmanie ?
Je pense que, déjà, on le voit au Bangladesh, où sont réfugiés beaucoup de réfugiés Rohingyas. Beaucoup de gens expriment leur solidarité vis-à-vis des Birmans et s'inquiète aussi de ce que vont devenir les Rohingyas qui restent en Birmanie. Les Rohingyas, c'était une population qui était déjà persécutée. On peut imaginer que à l'avenir, maintenant que l'armée a les pleins pouvoirs, la situation ne peut pas s'améliorer pour les Rohingyas. Il y a des plans de rapatriement de réfugiés Rohingyas du Bangladesh vers la Birmanie pour qu'ils puissent rentrer. Ça, ces plans sont aujourd'hui complètement au point mort depuis le coup d'État. Donc je pense que les espoirs étaient déjà maigres pour les Rohingyas. le coup d'État enterre définitivement toutes les tentatives pour réinstaller, protéger cette population.
Aung San Suu Kyi, chef de facto du gouvernement birman, a été arrêtée puis inculpée en milieu de semaine. Elle est largement soutenue par une partie de la communauté internationale. Que compte faire l'armée birmane d'Aung San Suu Kyi ?
Pareil, on a très peu d'informations là-dessus. Ce que l'armée a déclaré après l'arrestation d'Aung San Suu Kyi, c'est que elle allait être inculpée, notamment pour violation de la loi sur les imports-exports, parce qu'apparemment on aurait trouvé des talkie-walkie chez elle et qu'elle n'aurait pas eu le droit, ou que quelqu'un dans son entourage n'aurait pas eu le droit d'importer en Birmanie. On voit que c'est des charges qui sont extrêmement douteuses. L'armée birmane est prête à trouver n'importe quel prétexte pour pouvoir l'inculper. Donc pour l'instant, il y a une enquête qui est en cours du côté de l'armée birmane, et je crois qu'il a été annoncé que Aung San Suu Kyi serait détenue pour 7 jours encore. Pour l'instant, on ne sait pas exactement où elle est, on ne sait pas dans quelles conditions. On a très peu d'informations là-dessus, et il semblerait que les militaires aient tout intérêt à entretenir le flou sur la situation d'Aung San Suu Kyi.
Ce coup d'État a-t-il pu être impulsé par certaines puissances étrangères ? Je pense en particulier à la Chine.
Comme on sait très peu de choses, c'est encore une fois difficile à dire. Je ne pense pas que la Chine ait véritablement intérêt à un coup d'État, et l'armée birmane en général se débrouille très bien toute seule. Elle est très préoccupée par des intérêts nationaux. La Chine, c'est plutôt un État qui, dans la région, aime la stabilité. Et elle avait des contacts avec l'armée birmane. La Chine avait aussi des contacts avec Aung San Suu Kyi. C'était une situation qui était plutôt confortable, d'une certaine manière. Et depuis le massacre des Rohingyas en 2016-2017, beaucoup de puissances étrangères occidentales s'étaient un peu détournées de la Birmanie, donc ça a laissé encore plus de place à la Chine. Donc la situation était plutôt intéressante. Donc je pense pas qu'il soit véritablement derrière ce coup d'État, à la fois pour des questions d'intérêt, mais aussi pour des questions d'autonomie de l'armée birmane. Voilà, en Birmanie, l'armée birmane fait à peu près ce qu'elle veut depuis longtemps.
Quelles hypothèses peut-on émettre sur le futur de la Birmanie à ce stade ? Que risque-t-il de se passer dans les prochains mois, les prochaines années ?
Dans les prochaines années, c'est difficile à dire. Dans les prochains mois, les prochaines semaines, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est en train de... Et quand je dis tout le monde, c'est les pays étrangers, qu'ils soient occidentaux ou asiatiques, les entreprises étrangères présentes en Birmanie, tout le monde est en train de regarder l'évolution de la situation et de voir quel pourra être son rôle. L'ouverture de la Birmanie avait été encouragée par beaucoup de pays étrangers, notamment occidentaux, les États-Unis, l'Union européenne. On voit que ça n'a pas du tout marché. Donc on peut imaginer qu'il y aura une remise en question de l'engagement de beaucoup de pays vis-à-vis de la Birmanie. Des entreprises étrangères commencent aussi à annoncer qu'elles suspendent leurs opérations en Birmanie ou qu'elles se retirent de certaines activités liées aux militaires. Donc il y a tout un mouvement un petit peu comme ça en cascade qui commence à se faire jour, et la Birmanie, semble-t-il, va rester un État fermé pendant un certain temps. Ça, c'est à peu près une certitude, déjà à cause de la pandémie. Les vols internationaux sont coupés en Birmanie depuis mars 2020, je crois. Donc ça fait déjà un moment qu'on ne peut plus voyager en Birmanie. Et là, ça va rester une chape de plomb pendant un certain temps. Et je pense que ça va être difficile de voir un futur positif à court et moyen terme.
Merci beaucoup, Guillaume Pajot, pour cette interview. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bonne journée sur BAC FM 106.1.
Merci.